Bonjour mes frères et sœurs, ce soir on va ouvrir nos Bibles dans Deutéronome 29:29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Depuis quelque temps, j'ai donc commencé une étude au sujet de la science des mystères de Dieu. Il y a une science des mystères de Dieu. Dans 1 Corinthiens, il est dit « Si tu as toute la science des mystères de Dieu, mais que tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. » Alors, il faut avoir de l'amour et il faut aussi avoir la science des mystères de Dieu. Et il faut avoir les deux. Hein. Ce n'est pas une mauvaise chose que de connaître la science des mystères de Dieu. Bien sûr, si on connaît la science des mystères de Dieu, mais qu'on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Mais il faut les deux. Bon, je crois que la révélation est progressive et que Dieu est en train de rétablir toutes choses, en tout cas pour ses disciples, pour ceux qui se disciplinent. Vous savez, quand il a créé le monde, il a établi des règles. Et notre tâche, c'est de trouver ces règles et puis ensuite de les mettre en pratique. Par exemple, quand nos enfants vont à l'école, et voilà, ils ont un devoir de mathématiques à faire, est-ce qu'ils ont besoin de prier pour que Dieu leur donne la solution du problème? Non. C'est de la religion, ça. Ils ont appris les règles. Alors, ils sont à même de résoudre les problèmes qui leur sont imposés. Et c'est la même chose au sujet de la vie spirituelle, de la vie avec Dieu. On n'a pas à demander à Dieu de faire notre travail. Les épreuves dans lesquelles nous passons, ce n'est pas à lui de les résoudre. Il y a les règles. En fait, nous sommes son œuvre, nous dit la Bible, et nous sommes ici-bas sur terre pour faire sa volonté. Nous n'avons pas besoin de lui demander ce que nous avons à faire. Nous n'avons pas à lui demander de faire notre travail. Lui, il a déjà fait son travail. Il nous a donné des règles afin qu'on les trouve et puis qu'on puisse ainsi les mettre en pratique pour pouvoir vivre d'une façon harmonieuse sur cette terre. Nous n'avons qu'à nous servir des règles qu'il nous a données, de la science, de sa science, pour être en harmonie avec lui et avec sa création. Mes frères et sœurs, dans Ephésiens, il est dit que nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Et cette bénédiction qu'il nous a donnée, elle nous positionne pour pouvoir travailler à notre salut, pour pouvoir travailler pour sa gloire, pour pouvoir travailler pour le bien des autres, pour être satisfait dans notre vie. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Dans 1 Jean, il est dit que nous sommes ce qu'il était dans ce monde, des fils et des filles de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il était? Il était le reflet de l'image, il était l'image du Dieu invisible, nous dit la Bible. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? En lui, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes donc le reflet de Dieu, nous sommes l'image de Dieu, du Dieu invisible sur cette terre. C'est en nous qu'il vit, il se cache en nous, comme il se cachait, comme il se voilait dans la chair de Jésus. Et quand Jésus était sur cette terre, il était aimant, il était patient, il était authentique, il n'était pas hypocrite, il n'était pas religieux, il était tendre, il était doux, il était humble. Alors, c'est ce que nous sommes intérieurement, nous avons tout ça parce que sa vie est en nous, nous avons tout ça potentiellement en nous, cette patience, cet amour, tout ça. Mais maintenant, il faut le manifester. Nous avons à le manifester. Et cela demande ce que nous appelons la consécration absolue. De quoi? De nos pensées, de nos forces et de nos désirs. Il y a tellement d'illogisme dans la fausse foi. La fausse foi déclare que Dieu est bon, que Dieu est omniprésent, que Dieu est omnipotent. Et cette fausse foi essaie de renseigner Dieu. Seigneur, tu vois ma misère. Regarde ma souffrance. Je te rappelle ce que tu as dit, Seigneur. Tu as dit, tu seras toujours la tête, mais tu ne seras pas la queue. Vous êtes en train de renseigner Dieu, mais il connaît tout ça. Il est écrit, Seigneur, il est écrit, tu as dit. C'est des prières de fausse foi. C'est du pleurnichage. Et il faut changer de mentalité pour pouvoir glorifier Dieu, mes frères et sœurs, pour pouvoir entrer en harmonie avec lui. Parce que c'est une fausse foi qui n'est pas basée sur la règle établie. Si un élève veut essayer de résoudre un problème mathématique sans observer les lois mathématiques, eh bien, il va avoir quoi au résultat? Ça va être faux. La règle, c'est que nous avons déjà tout pleinement en Jésus-Christ. La vraie foi, elle nous pousse donc à la gratitude et pas à la mendicité. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Je vais vous donner une image choc. Hier, j'étais aux Champs-Élysées. J'étais acheté du Nespresso, là, chez Clounet. Eh bien, en descendant les Champs-Élysées, j'ai vu trois femmes roms, vous savez, les romanos, là, à genoux, sur le trottoir, en train de mendier. Ben, quand vous êtes en train de dire « Seigneur, donne-moi », ben, vous êtes un romano, voilà. Vous êtes un mendiant, mais c'est un peu d'honneur, mes frères et sœurs. Nous sommes sur cette terre pour mettre à profit le bienfait que Jésus nous a acquis au prix de son sang sur la croix, mes frères et sœurs. Nous sommes, lorsque nous faisons cela, lorsque nous mettons à profit le bienfait que Jésus nous a accompli, nous a acquis sur la croix, alors nous nous qualifions pour pouvoir manifester encore plus. C'est nos actes qui sont les meilleures manifestations de notre gratitude, pas nos paroles. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous voyez, si nous remercions Dieu, merci Seigneur, mais qu'on se comporte comme des mendiants, comme des romanos, à genoux, aux Champs-Élysées, alors je dis que nous manquons de sincérité. Ou alors si vous me dites « je suis sincère quand je fais ça », alors je vous dis « vous êtes donc illogique ». Excusez-moi, c'est un peu dur. Mais enfin, il faut dire les choses. Jésus revient bientôt, il veut une épouse propre, il ne veut pas une mendigote. Souvenez-vous du bienfait de Dieu. Pas des bienfaits de Dieu qui sont déjà arrivés dans votre vie, mais du bienfait de Dieu. Les bienfaits de Dieu, les choses qui vous sont arrivées, c'est des détails qui font partie de ce grand bienfait. C'est autre chose, le grand bienfait. Ce grand bien qu'il vous a acquis sur la croix. Parce que vous savez, si votre cœur est éloigné de son amour qui a tout fait pour vous, eh bien, vous ne pouvez pas lui plaire. Sans cette vraie foi-là, c'est impossible de lui être agréable. Bon, il va nous jeter une petite pièce de temps en temps. La vraie prière de foi s'exprime par la patience, par l'amour, par l'humilité, par les bonnes œuvres. Sinon, la foi est morte. Si elle ne s'exprime pas par des actes, elle est morte. Si c'est juste du blablabla, des paroles, des attitudes, c'est à genoux, là, on regarde par terre, ou alors on lève les yeux comme ça, en larmoyant. C'est puant comme une vieille charogne. Excusez-moi, je préfère dire des mots chocs comme ça. Les mots chocs, on s'en souvient. Alors, quelle est notre dette envers Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui doit? Alors les religieux vont vous dire, impossible de payer parce que, n'est-ce pas, c'est impossible de payer la dette, Dieu a tout payé, on n'a rien à... C'est faussement humble. Dieu attend de nous que nous gardions ses commandements, que nous suivions son exemple et que nous soyons reconnaissants. C'est cela. Et ça, la chair, elle n'aime pas faire. Votre chair, elle n'aime pas faire ça. Le prix à payer... c'est de maintenir justement cette chair qui n'aime pas faire ça, votre moi, dans la mort de Jésus-Christ. Voilà votre dette envers Dieu. Voilà ce que nous lui devons. Dieu n'a rien à faire des cultes pleurnichards, des cultes extérieurs qui s'expriment simplement par des louanges verbales. Il en a marre. Ça lui donne des hauts le cœur. Dans Apocalypse 3, il est dit, je les vomirai à la fin, c'est pas possible. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Alors écoutez bien cela. Faire des efforts continuels pour maintenir notre moi dans la mort, afin d'être toujours bon, c'est ça, prier sans cesse. Je répète. Faire des efforts continuels pour maintenir notre moi dans la mort afin d'être toujours bon, gentil. C'est cela, prier sans cesse. Si vous demandez « Seigneur, donne-moi de l'amour », ça ne va pas suffire pour que vous ayez de l'amour. Hein. Par contre, si vous avez le désir brûlant d'être meilleur, le désir brûlant d'être saint, eh bien, ça va vous former, ça va vous façonner. Si vous exprimez une vigilance quotidienne et si vous faites des efforts pour manifester votre nouvelle nature, ça va être béni par Dieu. Connaître Dieu, connaître Jésus, connaître les lois divines, connaître les lois, connaître les principes divins, tout ça, ça nous conduit à démontrer que nous sommes de nouvelles créatures, des créatures divines, l'œuvre de Dieu. Et puis alors, les méchants s'élèveront contre vous, ce qui est tout à fait normal. Ils diront que vous êtes orgueilleux, que ceci, que cela, que vous êtes des imposteurs. Bon, ben voilà, c'est leur boulot, ils ont toujours fait ça, ils continueront, ils le feront avec vous. Je ne suis pas impressionné par ces longues prières, par ces... Et Dieu non plus. Dieu n'est pas du tout impressionné par ça. Ça l'influence pas du tout. En fait, je crois que ces longues prières, elles coupent les ailes de l'amour. C'est de la religiosité humaine à trois balles. Parce que elles font partie du monde de la matière, elles font partie du monde du temps, voilà. Je crois qu'en vérité, ces longues prières retardent la croissance de la vraie spiritualité. Ça l'empêche de démontrer le vrai pouvoir divin. Il y a tellement de fausses foi aujourd'hui. Par exemple, la prière qui entretient l'idée que le péché est annulé et que parce qu'on a prié, on est pur. Ben, ce genre de prière, moi je dis que c'est un mal. C'est un mal. Parce que c'est que quand Jésus a détruit le péché, que le péché est annulé. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, il vit en vous. Et son esprit, en communion avec votre esprit, doit détruire le péché qui essaye de vous lier. En son nom, détruisez ce péché. Le détruire, pas juste le confesser. Ben c'est la même chose pour la maladie. Nous devons détruire la maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tant que la vie... Nous sommes des tueurs, mes frères et sœurs. Tuer la vie de la maladie, c'est ça que nous sommes appelés à faire, la détruire comme Jésus faisait. Tant que vous n'avez pas tué l'esprit de maladie, la maladie, elle est encore là. Nous sommes des tueurs de péché, des tueurs de maladie, des tueurs de pauvreté. Voilà ce que nous sommes. Les tueurs de mal, la destruction du mal. Et la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Jésus va tuer la mort. La détruire. Alors, lorsque vous croyez vraiment que Christ est en vous, alors son amour corrige et gouverne votre vie. Je parlais avec mon frère Francis l'autre jour. Savez-vous pourquoi Dieu seul peut pardonner réellement? Bien sûr, nous pouvons pardonner, nous avons le devoir de pardonner. Mais nous avons le pouvoir. Même les païens peuvent. Ils se pardonnent des fois, les païens. Il y a des païens qui se pardonnent, hein, il ne faut pas croire. Mais le pardon de Dieu, lui, il réforme le pécheur. Si je pardonne en tant qu'humain, celui qui m'a offensé, ça ne va pas le changer. Hein. Parce que mon pardon n'a pas le pouvoir de changer le pécheur. Seul le pardon donné par Dieu a ce pouvoir. Alors maintenant, nous sommes appelés, nous, ses fils et ses filles, à pardonner comme il a pardonné. Alors, il y a une règle. Il faut poser un acte divin. Et si vous posez un acte divin, eh bien, vous devez le poser selon les règles. La personne qui vous a offensé, vous la pardonnez. C'est-à-dire dans votre cœur, voilà, c'est pardonné. Mais la personne qui vous a offensé doit regagner votre confiance en se conduisant bien avec vous. C'est la même chose que nous sommes appelés à faire quand nous offensons Dieu. Nous devons évidemment confesser notre péché, mais ensuite nous comporter bien, regagner la confiance de notre Père Céleste en nous conduisant bien. Va et ne pêche plus. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de changement, pas de pardon. Dieu seul a le pouvoir de vous faire changer, évoluer, progresser. Mais ça ne peut pas vous arriver autrement que par une relation avec son esprit, votre esprit et son esprit. Nous avons à faire valoir les talents qu'il nous a donnés Sinon, c'est comme si nous le renions. Vous savez, Jésus refusait l'erreur, Jésus refusait le péché, il refusait la maladie, il disait « arrière de moi Satan hein ». Alors, renonçons au péché, renonçons aux erreurs religieuses, renonçons à la maladie, renonçons à tout ce qui est mal, au mal sous toutes ses formes. Ça, c'est juste priver le sens matériel de ses fausses prétentions. Quand on renonce au péché, à l'erreur, aux maladies, à ces choses-là, nous, on renonce au sens matériel et à ses fausses prétentions, à ses fausses exigences. Le monde matériel a des exigences et nous, on va à l'encontre avec les règles de l'esprit. On détruit ces choses mauvaises. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Et puis, après, on s'éloigne, nous-mêmes, on s'éloigne. On se cache s'il le faut. Jésus se cachait de temps en temps de ses ordures religieuses. Il se cachait. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir et je reprendrai la suite dimanche matin. Déjà, pensez à toutes ces choses, méditez, réfléchissez, réécoutez ce message, prenez des notes et grandissez dans la foi sur les bonnes règles de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur d'aider mes frères et sœurs. Bénis-les, encourage-les Seigneur Jésus, afin que nous puissions nous présenter devant toi avec des robes blanches, sans tache, et avec une belle apparence, mais aussi un bel intérieur. Que ton nom soit béni et glorifié, mon Dieu. Amen. Amen.